Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir.
Art contemporain, qu'est-ce que c'est pour moi ?
Étrange.
Art.
Espace, œuvre, expérience.
Subjectif.
Art, je pense à quoi ?
Ah mais je t'ai dit que j'y connaissais rien.
Exposition.
La découverte. Du rire parfois.
Photographie, art plastique, dessin, installation, performance.
Ça peut servir à faire passer un message.
Art avec des crayons, une gomme.
Eh bien, c'est ce qui nous aide à vivre en fait, et dont on a tous besoin.
Ceci n'est pas une pipe.
Bonjour et bienvenue dans Ceci n'est pas une pipe, émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. On est ravis de se retrouver pour cette émission spéciale printemps. Aujourd'hui, je vous emmène à la galerie Mira à Nantes, au 1 bis rue Voltaire. Située dans le quartier Gralin, la galerie Mira est un espace vivant, une galerie d'art devenue un lieu d'échange entre créateurs et public lors des vernissages, concerts, conférences et performances organisées tout au long de l'année. Cette galerie collabore avec des artistes et artisans inspirés par la nature et l'architecture, en attachant une importance particulière au territoire, à ses paysages et à ses habitants. Elle est gérée par Eva Borgnis Desbordes et Oscar Pignon Armada. Nous découvrirons ensuite l'exposition en cours, Esthétique fonctionnelle, de l'artiste Aymeric Rousteau, qui est également avec nous. Il va nous présenter son travail et nous offrir une visite de son exposition. Allez, c'est parti, suivez-moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc on vient d'arriver à la galerie Mira, 1 bis rue Voltaire à Nantes. Et on va être accueillis par Eva Borgnis Desbordes et Oscar Pignon. Et l'artiste Aymeric Rousteau qui du coup fait une exposition qui s'appelle Esthétique fonctionnelle, qui présente de la peinture, du dessin et de l'objet. Allez, c'est parti, suivez-moi.
Bonjour Marine.
Bonjour.
Bonjour.
Donc on vient de rentrer dans la galerie Mira, située rue Voltaire, à Nantes. Donc on va peut-être commencer par présenter le lieu avec Eva et Oscar, et puis ensuite on ira voir l'exposition en cours qui s'appelle Esthétique fonctionnelle d'Aymeric Rousteau, qui est présent avec nous et qui va nous parler un peu de lui et de ses œuvres et de son parcours. Mais d'abord commençons par le lieu dans lequel on est, qui est un lieu à la croisée des chemins entre art et design et artisanat. Donc vous allez nous présenter un peu tout ça.
Effectivement, Mira, la galerie Mira, et la volonté de réunir l'artisanat d'art et l'art contemporain, les arts plastiques contemporains, dans un même espace donc, où sont exposées à la fois des pièces en céramique, en verre soufflé, du dessin, de la peinture, des collages, de la proto-photographie. Dans ce même espace bicéphale, puisqu'il est traversant, Marine, vous êtes rentrée par la rue Voltaire, et ensuite l'espace traversant est percé et donne sur une autre pièce qui est plus dédiée aux expositions temporaires, et on peut y sortir et on arrive rue Gresset, dans le quartier Gralin à Nantes.
Pouvez-vous vous présenter et puis présenter comment vous avez monté le projet, comment tout ça s'est fait?
Oui. Bonjour, je m'appelle Oscar Pignon, je suis né à les îles Baléares, à Mallorca, à l'Espagne. L'accent, je crois, que me délate un petit peu. Et bon, l'idée était de monter un espace art et artisanat contemporain pour effacer un petit peu les frontières et les hiérarchies d'un point de vue transversal. Et vraiment, je crois qu'on a réussi un petit peu.
C'est un projet qui a été écrit en 2010, lorsque nous habitions à Paris. Nous sommes rencontrés à Madrid. Moi, je suis originaire de la baie de Morlaix, dans le Finistère. Ce projet donc a été écrit en 2010 et nous nous sommes installés en 2013 à Nantes pour prospecter et trouver un quartier qui convenait pour développer ce projet. Et nous avions comme objectif de nous installer rue Voltaire, qui a une proposition muséale avec le Muséum d'Histoire Naturelle et le Musée d'Aubray, qui va réouvrir en 2025, je crois. On est près aussi de l'Opéra Gralin, des cinémas, et donc ce projet, on pensait toute sa place ici dans ce quartier.
Oui, c'était un vrai choix de s'installer ici.
C'était un choix de s'installer dans ce quartier. On a prospecté, ne connaissant pas Nantes, on a essayé de comprendre la ville et on trouvait ce choix pertinent pour développer cette activité. Et voilà, la galerie a ouvert en décembre 2015.
Et avant, vous n'aviez pas spécialement fait de projet d'exposition, vous aviez déjà un pied
Oui, un petit peu dans un espace que j'avais cofondé avec une personne à Paris dans le 19e, où j'étais chargée des expositions. Bon, c'était pas un lieu complètement dédié à l'art, mais j'avais cette carte blanche d'y programmer des expositions.
Ok, et donc une fois que vous avez réussi à trouver ce lieu implanté dans ce quartier, comment vous avez décidé de choisir les artistes avec qui vous aviez envie de travailler? Comment vous avez décidé quelle programmation, à quel rythme, etc.?
L'idée, c'est avec le côté artisanat, c'est travailler surtout aussi localement, avec des métiers d'art et art de feu surtout, céramique, verre soufflé, un petit peu de métal avec des coteliers. Mais l'idée, c'est travailler localement, circuit court, pour faire attention aussi à l'empreinte écologique, pour vraiment faciliter la relation plus proche avec les artistes et artisans, les visites à les ateliers. Et après, formalement, on travaille autour du territoire. Le territoire, les paysages urbains, naturels, ses habitants.
Et donc, comment vous articulez, effectivement, donc il y a une partie boutique dans laquelle il y a plutôt des objets. Enfin, après, il n'y a pas que des objets, il y a de la deux dimensions, etc. Des dessins, des peintures, des foulards, vous allez probablement en parler après. Et puis, cet espace d'exposition, est-ce que c'était déjà comme ça dès le début ou est-ce que c'est des choses qui se sont construites
Ça a été toujours comme ça. Et c'est vrai que ce lieu, avec ces deux espaces, vraiment nous donne cette liberté d'avoir à la fois une programmation, on va dire, de 4 à 5 expositions à l'année, temporaires, où on dédie l'espace à un artiste, ou à deux, on commence à faire aussi des expositions collectives, mais dédiées vraiment à une exposition temporaire qui va durer 1 à 2 mois. Et ensuite, l'espace où on est là en ce moment nous permet d'exposer les artistes avec qui on travaille depuis toutes ces années et qu'ils soient aussi présents en dehors des expositions temporaires. Devant le mur, vous voyez, il y a des œuvres de Jérôme Maillet, de Luc Leblanc et de Makiko Furuichi, Sylvain Descazeaux, à qui nous avons à chacun dédié une ou deux expositions temporaires. Et donc, ils sont aussi présents pendant l'exposition, par exemple, en ce moment, d'Emeric Rousteau. Et donc, on trouve ça intéressant que notre fonds, on va dire, puisse être exposé pendant les expositions temporaires. On fait aussi des expositions métiers d'art et elles sont présentes aussi sur les étagères et les tables qu'il y a ici, voilà, au fur et à mesure des ventes et des acquisitions. On propose d'autres pièces au fur et à mesure également des productions des ateliers comme Hélène Morbu, Atelier Polyèdre, qui en permanence sortent des nouvelles pièces. Et nous, on essaye d'être quand même très présents dans l'actualité de ces ateliers.
Donc finalement, vous fonctionnez quand même comme une galerie qui a des artistes qui récurrents qui suivent.
On peut suivre son parcours, c'est intéressant de voir et observer l'évolution, comme de faire des premières expositions et voir aussi comment évolue l'artiste formellement. C'est vraiment très intéressant et c'est un privilège d'être un témoin de l'évolution graphique et des langages et des recherches des artistes et artisans.
Et comment vous faites pour trouver les artistes avec qui vous travaillez? Comment ça se passe? C'est du bouche à oreille, c'est des connaissances, c'est vous cherchez sur les réseaux
C'est le cœur du métier, hein, si on peut dire, qui ne se voit pas, mais qui est le plus passionnant, je pense, que nous offre cette aventure Mira. C'est effectivement des recherches au quotidien, alors sur les réseaux, c'est assez incroyable ce qu'on peut y trouver. Oscar est plus à la direction artistique, moi je m'occupe plus de l'administration, la logistique, et après les éditions de foulard sur un thème sur lequel on peut parler ensuite. Mais les décisions se prennent toujours ensemble jusqu'à la décision finale. Donc on est sollicité, on fait des choix, on se déplace aussi à Paris ou ailleurs sur des salons, art fair, salon métier d'art. On voyage, on est curieux.
Il faut étudier aussi, lecture, bibliothèque, podcast, tout vraiment, tout. C'est nécessaire pour complémenter et continuer à apprendre tous les jours et se former, en formation continue jusqu'à toute la vie.
Oui, c'est vrai que les revues Atelier d'Art de France, Céramique et Verre, à laquelle nous sommes abonnés, nous permettent d'être, bien sûr, de suivre l'actualité métier d'art, mais aussi de découvrir des nouveaux artistes qui, d'ailleurs, ont donné des collaborations. C'est vrai.
En visitant des expositions, qu'après on a parlé avec l'artiste, il était intéressant pour exposer à Mira, comme Gaël Dara, on l'avait vu à la galerie Atelier Alain Lebrun. Et un an plus tard, on était très contents de faire une exposition et voir aussi comment a évolué son travail avec un polyptyque incroyable. Et aussi, en visitant des ateliers, les artistes, ils sont en réseau. Il y a un atelier, también un autre atelier, de travailler autour du territoire. Et ça nous limite aussi, mais ça nous fait un petit peu notre spécialisation.
Vous travaillez aussi avec des principes, une sorte de résidence aussi. Je sais qu'il y avait eu ces résidences autour du sel.
Oui, on essaye de développer alors deux types de résidences avec restitution dans notre espace, bien sûr, d'exposition. On va dire des résidences de recherche, amener des propositions, des sujets d'inspiration aux artistes. On a développé ça sur 4 territoires. Donc la première était Sel. On a invité en fait le duo Les Concasseurs avec Sylvain Descazeaux, Mathieu Lautredoux, sur le Marais Salant vient de Julien Bornis Desbordes, qui est mon frère et qui est aussi associé de l'aventure Mira. Et c'était une forme de remerciement aussi. On a une admiration aussi pour ce métier très beau qui implique les éléments et la nature pour la récolte du sel. Et on trouvait que c'était un territoire intéressant pour ce duo qui justement fait des recherches autour du territoire et de la matière. Et donc on les a invités à passer 3 semaines sur le marais de Julien qui est situé sur l'île de Noirmoutier. Et à partir de là, ils ont fait des prélèvements de terre. Ils ont ensuite fait travailler Simon Muller pour le verre. Il y a eu aussi le bois qui est intervenu dans cette exposition. Des sérigraphies avec l'argile qui a été récupérée dans le marais de Julien, qui a donné la première restitution suite à une résidence. On a eu 3 autres. La deuxième, c'était Repère. Donc, c'était Jérôme Maillet et Macula Nigra, Loïc Kreff, qui est un artiste rennais. C'était autour du patrimoine industriel chantenaisien. Je suis allée avec Oscar rencontrer le directeur des silos à grains, ce bâtiment monumental qui est situé sous le pont de Cheviret. Ils ont accepté notre demande et donc ils nous ont ouvert le lieu pendant toute une matinée. On a eu une visite privée avec les artistes. Et tout ça a donné lieu après à des déambulations, des réflexions. Donc là, on est vraiment sur la résidence de recherche de création. Voilà, il y en a 2 autres dans les réserves du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc le directeur Philippe Guillet nous a ouvert ses réserves pour Jérôme Maillet et Macula Nigra également. Et la dernière était toute petite Amazonie. On a proposé à l'artiste Akiko Furuichi de s'inspirer de la petite Amazonie, un territoire de nature sauvage situé d'une 15 ou 20 d'hectares. Et un botaniste nous a fait une visite pendant toute une matinée. Et les 2 dernières résidences que l'on a faites concernent Émeric Rousteau et puis le duo Samistin et Séverine Basquaire. Donc là, c'est plus une résidence, on va dire, de production et de mise à disposition d'ateliers avec l'établissement Le Pôle des Arts La Jolivrie. Et donc son directeur François Guibert nous a mis à disposition pour les artistes, l'atelier ressource de l'établissement, ce qui a permis à Émeric d'avoir un grand atelier, aussi du recul. Je pense que c'est important pour un artiste de pouvoir reculer lorsqu'il crée des pièces grand format, et notamment des pièces en tissu qu'il a peintes, et un grand meuble hybride aussi qui lui a permis d'avoir de l'espace. Donc là, c'est ce 2 types de résidences qu'on développe. Il n'y a pas de règles, mais dès qu'on peut le faire, on essaye de faire ça, on trouve intéressant. Nous, ça nous permet d'être un peu plus impliqués dans le processus de création, même si l'artiste a toujours la totale liberté d'expression plastique, on va dire.
Et du coup, ça sort un peu du cadre habituel de la galerie qui juste suit les artistes et puis présente leur travail et les vend, en fait. Vous avez aussi un rôle d'accompagnateur.
Oui, un petit peu, on peut dire ça comme ça, oui, c'est vrai. Mais ça nous plaît beaucoup, ce pan du travail.
Très bien, et bien merci beaucoup pour toutes ces présentations. Je vois aussi autour de moi 2 choses dont on n'a pas particulièrement parlé. Je vois des éditions et je vois des foulards.
On travaille avec différentes maisons d'édition. Pour la photographie, c'est Sur la Crête. C'est une maison d'édition spécialisée en photographie autour du paysage et ses habitants. Et vraiment, on fait un travail très soigné avec différents formats et aussi avec édition matière. C'est une maison d'édition de Montreuil à Paris. Il risque beaucoup aussi formellement avec des artistes comme Yokoyama ou Sammy Stein qui en collaborent. Et vraiment, c'est intéressant. Aussi avec la revue 303 qu'on distribue, Atelier d'Art de France, et après des éditions de les expositions.
Un événement pour la revue 303 également, l'avant-dernier Masque, qui était piloté par la critique d'art Eva Proutot, on a fait le lancement. Et ça, on aime bien aussi sortir du cadre. Alors les vernissages, on aime beaucoup les temps de vernissage, mais les temps où on nous propose sortie d'une revue, d'une édition, ça permet, et c'était le souhait au départ, que la Galerie Mira soit un espace vivant et un espace de rencontre. C'est vrai, on se rend bien compte que pendant les temps de vernissage, de concerts aussi, parce qu'on programme quelques concerts, alors des formations réduites évidemment, et ben il se passe des choses. Le fait aussi de travailler localement avec les artistes métiers d'art ou les artistes plasticiens, c'est vrai qu'ils sont présents à nos événements et du coup ils se rencontrent entre eux et je pense que se créent des discussions, des échanges assez riches et on tient à programmer ces temps forts de rencontres et qui sont plutôt joyeux et conviviaux, on va dire.
Ça permet de faire des ponts entre les disciplines artistiques, des regards croisés entre les arts visuels, les arts musicaux et puis l'édition aussi, qui est aussi tout un pan qui existe et qui est présent. C'est aussi, je pense, la qualité de ce lieu qui permet de mélanger mélanger aussi plein de pratiques et de supports. Et je trouve que ça fait sens aussi qu'il y ait aussi de l'événementiel et puis des différentes manières de montrer l'art et différents contextes.
Et peut-être on peut évoquer aussi ce pan des éditions que l'on a mis en place en 2019 avec la préparation de l'exposition Toute Petite Amazonie de l'artiste plasticienne Makiko Furichi. Lorsqu'on l'a invitée à exposer, on lui a proposé d'éditer, elle qui est proche de l'édition textile et papier hein, dans ses autres expériences diverses en exposition temporaire ou autre. On s'est dit pourquoi ne pas lui proposer d'éditer des œuvres, une œuvre, deux œuvres sur foulard en soie. Alors, parce que moi, j'ai un passé où je me suis aussi formée dans le textile et que, voilà, par exemple, je porte pas de bijoux, mais je porte des foulards. On tenait, on va dire, à cela pour aussi proposer à l'artiste un nouveau support, le foulard, qui est une œuvre qu'on porte, qu'on met autour du cou. Il y a une intimité qui se crée avec l'œuvre qui est intéressante, je trouve. Voilà, et donc, on a fait tout ce travail de sourcing, de développement, d'abord à Nantes, avec des différents prestataires. Puis, on s'est éloigné quand même un petit peu. Il y a eu un gros travail de recherche autour de Lyon, qui est le bassin historique de l'impression de la soie en France. Donc on travaille avec une soie française, on peut les citer, hein, les tissages Perrin, qui sont aussi le fournisseur d'Hermès. Il faut aussi reconnaître que grâce à des structures comme Hermès, qui perpétuent les savoir-faire français, on a encore des ateliers comme les ateliers de tissage Perrin. Donc on achète la soie là-bas, il faut la traiter, puis la faire imprimer. On a développé deux techniques, la technique d'impression au cadre, qui est une impression en sérigraphie, et la technique plus contemporaine, on va dire, mais avec des rendus exceptionnels d'impression jet d'encre. Donc là, notre prestataire se situe à Laval, les tissus d'Avenières, qui sont équipés d'une machine très pointue en impression jet d'encre. Et voilà, et du coup, cette aventure continue. On a une petite collection aujourd'hui, on en est fiers, avec Makiko Furichi, dans l'ordre Jérôme Maillet, Hélène Duclos et Samistin, un grand carré de 130 par 130. Sinon, la dimension est une dimension classique, puisque en fait ça dépend des laisses de soie, hein. Donc on est tributaire aussi de cela, ce qu'on peut en faire tisser. J'ai posé évidemment la question parce qu'on voulait un format différent, mais là il fallait commander 500 mètres et évidemment c'était pas réalisable. Et voilà, et j'allais en venir. Lorsqu'on a invité Aymeric à exposer, lui nous a dit moi le foulard en soie je m'y retrouve pas, et on lui a dit mais il n'y a aucune obligation, et il est revenu pas très longtemps après avec cette idée formidable du bandana en coton. Avec, voilà, pour rejoindre, il va vous en parler, l'esthétique fonctionnelle qui l'habite. Et il nous a proposé un bandana. Donc là, on l'a fait imprimer au cadre en sérigraphie par Pierre Verdon, avec qui on travaille, qui est installé à Rezé, avec l'atelier Parade, avec des encres réfléchissantes. Donc Pierre a évidemment répondu à cet appel, a trouvé les encres, il les a fait venir d'Angleterre. Et on se retrouve avec un bandana en popeline de coton qui, la nuit, pour les pratiques de vélo ou de skate ou des simples badauds qui se promènent la nuit, ça fonctionne vraiment très très bien. C'est-à-dire que lorsqu'elle est éclairée, comme les gilets jaunes, cette encre réfléchit et donc situe la personne qui fait du vélo ou qui se promène la nuit, et ça fonctionne vraiment très bien. Et il a évidemment réalisé une magnifique composition, à la fois avec de la typographie, une nature morte qui est propre à son travail, et on le remercie encore.
Bien, du coup, ça nous permet d'introduire Aymeric qui est juste à côté de nous. Comment ça s'est passé, votre rencontre? Parce que là, moi, on est toujours dans l'espace boutique et puis après, on va se déplacer dans l'espace exposition pour voir l'exposition en cours. Mais pour l'instant, on est encore dans l'espace boutique et il y a déjà quelque chose de présent dans la boutique qui concerne votre relation. Comment vous vous êtes rencontrés?
Les premières rencontres avec Aymeric, je crois que c'est autour de l'année 2016, comme quelqu'un curieux qui a poussé la porte, avec un intérêt accentué pour le design. Avec sa curiosité, on a commencé à parler et petit à petit, on a créé une relation. Et avec des visites continues, on a commencé à parler. Lui était un projet avec Studio Paranomen, avec la création de mobilier et de scénographie. Et on l'avait un petit peu sollicité pour créer un système mobile modulaire pour la vitrine. Et ça a été notre première collaboration. Il y a une partie ici, avant elle était là-bas. Après aussi des tables d'appoint, pain. Et petit à petit, la relation continue, on avait fait une fresque. On regarde le deuxième, parce qu'Aymeric avait réalisé une fresque aussi avec des tonalités rouge, bleu et noir, avec une inspiration, avec une console d'atelier polyèdre, et aussi une typographie avec SP, de Studio Paranomen. qu'on a effacé, malheureusement.
Ouais,
et maintenant, on a...
Oui.
Et maintenant, on a une fresque qu'on adore tellement que c'est impossible de l'effacer. Je crois qu'elle va rester.
C'est vrai, et on a tellement des retours de tous les clients, les collectionneurs qui fréquentent notre espace. Et il y a eu plusieurs publications. Là, récemment, Atelier d'Art de France et la rédactrice en chef nous a combien félicité. Ce qu'on a bien sûr transmis à Aymeric. Il y avait eu quelle publication dans le magazine Elle Décoration aussi, ça avait été photographié. Et sur cet arrondi qui devient angulaire, il nous transporte et il nous perturbe. Et les couleurs sont à la fois très chaudes et belles. Et vraiment, la mise en scène avec les objets qu'on a dans cette vitrine assez profonde, ça fait un ensemble très harmonieux.
Oui. Donc à voir si on se déplace rue Voltaire, c'est ça ?
Bien sûr, exactement. Ou un bis.
Et il avait réalisé Aymeric pour une exposition des pièces de Quentin Marais, un céramiste de Le Monde d'Arrêt qui travaille à Le Colombin avec des couleurs colorées. Il a adapté un petit peu Aymeric à les couleurs des pièces de Quentin Marais et en plus avec les couleurs du mur qu'on a en face, que c'est une espèce de patchwork de pierres avec des ocres, des couleurs un petit peu sable. Il a fait des dégradés. Vraiment très doux, comme un atelier du Pasquier, une espèce de colonne avec une entaille.
Enfin, il s'est vraiment inspiré du lieu des objets pour créer, ou dans les couleurs, ou dans les formes, une réalisation qui est vraiment en harmonie avec le lieu, qui a été fait pour le lieu. Donc c'est vrai que ça a été très bien réussi.
Les côtés surréalistes, vraiment les draper, créer un paravent arrondi d'une cage d'escalier, qui vraiment c'est improbable. Et aussi une inspiration avec des formes de Quirico, de plusieurs artistes, des designs avec des objets fictionnels aussi, et les couleurs vraiment.
Mais concernant la rencontre Amira, je voulais raconter, enfin ils ont dit tout ce qu'il fallait dire, mais je crois aussi que le premier point d'accroche, ça a été la musique, enfin la musique que j'entendais dans le lieu quand j'arrivais et qui correspondait à ce que moi j'écoutais. Et donc ça, un des premiers sujets de discussion a été les morceaux qu'Oscar et moi, on écoutait et on a parlé de musique. Parce que je crois que c'est assez important. Et on échangeait des musiques aussi sur des messageries de réseaux sociaux.
Merci pour toutes ces explications, puis pour l'explication de... votre rencontre. Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. On est à la Galerie Mira avec Eva Borgnis-Desbordes et Oscar Pignon Armada et l'artiste Aymeric Rousteau autour de l'exposition Esthétique fonctionnelle qui a lieu du 2 mars au 8 avril à la Galerie Mira 1 bis rue Voltaire à Nantes. L'exposition sera ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 19h. En écho à la rencontre entre l'artiste Aymeric Rousteau et Oscar Pignon Armada, on va faire une petite pause musicale qui fait référence à leurs goûts musicaux communs avec la chanson Lonely Woman de Ras Silver.
Thank you.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. On est à la Galerie Mira avec Eva Borgnis-Desbordes et Oscar Pignon-Armana et l'artiste Aymeric Rousteau autour de l'exposition esthétique fonctionnelle. On vient de faire une petite pause musicale avec Horace Silver et sa chanson Lonely Woman. Nous allons continuer la visite de l'exposition esthétique fonctionnelle qui est visible à la Galerie Mira, 1 bis rue Voltaire à Nantes, jusqu'au 8 avril. Allez, on va découvrir un peu ce qui se trouve dans cette exposition. Suivez-moi.
Est-ce que, Aymeric, tu veux te présenter? On vient d'évoquer un peu tes influences, etc., au travers de cette fresque qui est assez représentative de ton travail, mais est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots? On va rester ensemble avec Eva et Oscar, et ensuite on ira faire un petit tour dans l'exposition, tous les trois.
Je m'appelle Aymeric Rousteau, je suis né en Guadeloupe. J'ai été en contact assez tôt avec le dessin et la peinture parce que mon père faisait des aquarelles quand on allait à la plage. Je crois que ça m'a jamais quitté et que inconsciemment je souhaitais ne pas lâcher. J'ai fait des études scientifiques au début. Après un bac scientifique, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai entamé une première année scientifique avec un tronc général en Guadeloupe et j'ai fait ma deuxième année à Toulouse où j'ai suivi un cursus de géologie en seconde année. Et je crois que ça ne me correspondait absolument pas. Et pendant cette seconde année, j'ai décidé de passer plusieurs concours pour intégrer des écoles de beaux-arts parce que c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis ma première année de bio en Guadeloupe. Et j'ai fait ça et j'ai eu la chance d'avoir au moins une réponse positive. Et donc j'ai intégré l'école des Beaux-Arts d'Angers, dans laquelle j'ai passé 5 ans pour obtenir un diplôme qui s'appelle le DNSEP, qui est le diplôme national supérieur d'expression plastique. Et voilà, au cours de cette année, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Bénédicte Guilbeault et avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et avec laquelle on a fondé le studio Paranomen. Mathieu Steyer nous a rejoint par la suite. Et il reste un petit moment. Ensuite, nous a quittés, mais nous sommes restés très amis. Et au sein du studio Paranomen, j'ai pu, avec Bénédicte, étancher ma soif de réalisation d'objets. C'est peut-être le premier moment, aux alentours de 2013, où j'ai vraiment décidé que l'objet aurait une place importante dans mon travail, au même niveau que le dessin ou la peinture. Et j'ai oublié de dire que depuis mon arrivée au collège et ma découverte du graffiti, j'ai au début beaucoup griffonné des lettres sur des bouts de papier, colorié des lettres avant de pouvoir faire ma première peinture en décembre 2005, je crois bien, la veille de Noël, sur un mur. Et depuis, ça m'a jamais quitté, ça nourrit mon travail. Enfin, c'est une partie de mon travail qui me permet de faire des allers-retours entre lettres, objets, volumes, peinture. C'est quelque chose que je pratique et qui me nourrit et qui me permet d'avoir accès à un autre pan de la peinture contemporaine, parce que le graffiti, c'est principalement de la peinture, quoi. Même si on peint des lettres. Peu importe la façon dont on les peint, c'est de la peinture. J'aime l'idée de diversité, j'aime toucher à tout, j'aime apprendre à faire ce qui m'intéresse ou ce que je crois que j'aime. Et donc, j'ai pas parlé d'un de mes amours, mais enfin, j'aime beaucoup la typographie, j'aime beaucoup les lettres, j'aime beaucoup dessiner des lettres. Je sais pas exactement pour quelle raison, mais je trouve qu'à travers la lettre, il y a cette idée d'à la fois de fonctionnalité et d'esthétique, puisque beaucoup de typographes maintenant décident d'avoir une certaine liberté de création de forme au sein de la typographie, quoi. Et je trouve qu'il y a cette notion de plus en plus assumée d'à la fois avoir une jolie lettre, peut-être un peu moins lisible, mais une jolie lettre et une lettre fonctionnelle à la fois, quoi.
Très bien, merci pour cette présentation. Et on est aujourd'hui dans la galerie Mira et on est le lendemain de l'inauguration de l'exposition en cours, donc, que tu as nommée Esthétique fonctionnelle, qui a lieu du 2 mars au 8 avril. On est dans l'espace boutique et on va se déplacer dans l'espace exposition. Il y a Eva qui nous invite à nous déplacer, alors on va y aller tous les trois. Donc on vient d'arriver dans l'espace d'exposition de la galerie Mira. Ça parle de quoi cette exposition? C'est quoi l'esthétique fonctionnelle? Pourquoi ce titre?
Et avant de répondre à cette question, je vais raconter la façon dont je suis tombé déjà sur ce terme que je n'ai pas du tout inventé. À l'époque où je travaillais avec Bénédicte Guilbeault, nous avions des inspirations et des références qui se situaient entre le constructivisme russe, voire le suprématisme, et l'école du Bauhaus. Je crois que ce qui nous plaisait énormément, c'était cette volonté de démocratiser en quelque sorte l'art ou de faire en quelque sorte revenir l'art au sein des foyers des gens et dans le quotidien surtout des gens. Et ça, c'est un truc qui nous plaisait énormément. Un des aspects de l'école du Beaux-Arts, ce qui nous plaisait énormément, c'était l'apprentissage à la fois artistique et à la fois artisanal proposé par l'école aux élèves. Enfin, c'est des choses qui nous parlaient et dans lesquelles on se retrouvait énormément parce qu'il y avait à la fois l'aspect artistique évident et à la fois l'aspect fonctionnel qui était enseigné au sein de l'école. Et en fait, quand j'ai arrêté de travailler avec Bénédicte, il y a eu un trou en fait qui s'est créé où j'ai arrêté de faire des objets, pas arrêté d'y penser, mais j'ai arrêté de faire des objets et j'ai arrêté de me dire que j'allais avoir une pratique artistique et réaliser des expositions. Et je me suis consacré au graffiti en ayant à côté un travail élémentaire. J'étais assistant d'éducation dans un lycée. Et ça me convenait très bien. Et Oscar est revenu à la charge en me disant qu'il souhaitait que j'expose et que finalement, qu'il souhaitait que je lâche pas ce souhait de continuer à faire des objets et de continuer à penser à ma pratique artistique. Enfin, même si le graffiti, c'est une pratique artistique évidente. Et donc, cette idée qu'il a plantée dans ma tête a un peu germé. Et en sortie du premier confinement, du coup, je ne sais plus en quelle année c'est, mais je crois que c'est 2020, quelque chose comme ça, je me suis remis à faire des recherches sur ce que j'avais laissé. Donc en repartant du Bauhaus, en repartant du constructivisme, je me suis remis à lire des choses parce que je me suis dit que ce que j'avais fait avec Bénédicte Guilbault, c'était quelque chose que je souhaitais continuer peut-être d'une autre façon. Et au fil des recherches, je suis tombé sur un bout de paragraphe d'un article de Lucien Stéphan, universitaire et philosophe à Rennes, qui parle d'esthétique fonctionnelle. Et en lisant ce terme dans ce bout de paragraphe, ça m'a instantanément évoqué des choses. J'ai décidé de dégoter cet article en entier, que j'ai lu et qui a terminé de me convaincre. Et esthétique fonctionnelle, finalement, c'est une façon de parler d'une certaine façon de faire qu'on a un peu abandonné en Occident. Enfin, c'est une façon de voir une sensibilité dans la vie de tous les jours, c'est une façon de voir l'art dans la vie de tous les jours, c'est une façon de ne surtout pas faire de distinction entre l'art et la fonction. Finalement, l'esthétique fonctionnelle, oui, c'est la description de choses à une époque où on ne faisait pas de distinction entre l'art et la fonction. En tout cas, en Occident, il existe encore des domaines où on accepte de ne pas faire la distinction entre l'art et la fonction, par exemple en architecture, ou dans une certaine forme de design pas produit de manière industrielle, ou dans la mode, la haute couture correspond un peu encore à cette idée d'allier références culturelles, poésie, art et fonctionnalité. Cette idée-là me plaît énormément, et j'aimerais qu'elle prenne plus de place dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, dans la société occidentale, quoi. Je vais lire la première phrase du paragraphe qui m'a beaucoup intéressé dans l'article de Lucien Stéphan, c'est « L'esthétique fonctionnelle entend réunir utilité et beauté, fonction et qualité esthétique. » J'aime beaucoup.
Et donc alors, si on doit avoir une illustration de ce propos et de ce que tu essayes de faire passer à travers tes créations, quel serait l'exemple dont tu aurais envie de parler là dans l'exposition ?
Peut-être de l'étagère mini-bibliothèque murale, qui est un des objets auquel j'ai pensé, qui fait partie des premiers objets que j'ai eu en tête. Au début, j'en ai pas pris conscience tout de suite, mais j'ai mis l'idée de concevoir cet objet comme une peinture, de le penser à la fois comme une peinture et comme un objet en même temps, et de ne pas penser que cet objet accueillerait une peinture ou que cette peinture serait faite sur un objet, mais de vraiment me dire que ça allait être à la fois un objet fonctionnel et une peinture, en fait.
Est-ce que, parce que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ne peuvent pas être dans l'exposition, ne peuvent pas la voir, bien qu'ils peuvent encore s'y déplacer, est-ce que Eva ou Oscar, vous voulez bien me décrire ce qu'on voit ?
On peut observer un panneau en bois occumé. En même temps, c'est un support d'un tableau et bibliothèque et étagère. Ça s'appelle Renaissance. Il y a vraiment, on peut observer les veinages de cette bois avec des ondulations qui se va répondre un petit peu avec les objets circulaires avec en disposition un X et au centre une espèce de germe végétal, une espèce de biomimétisme qui pousse au centre. Et après, des reflets métalliques de l'étagère qui se vont répondre à l'autre angle qui est découpé comme des étagères. Pour le côté gauche, le latéral gauche, c'est une étagère. Et pour le côté droit, il y a un espace pour les livres des bibliothèques. Au centre, on peut observer un tableau, une composition, une nature morte. Le continent et le contenu se fusionnent en un objet qui est en même temps esthétique et fonctionnel. Comme le titre, c'est la Renaissance. Ça évoque un petit peu comme une espèce de croix, des objets qui étaient inertes, ça pousse, il y a une espèce de renaissance, c'est comme l'arrivée du printemps.
Comme en ce moment.
comme mois de mars.
Et il y a quand même ce détail troublant que l'on retrouve dans la peinture d'Emeric, le trompe-l'œil, où il joue de nos visions pour nous troubler, nous déstabiliser. Peut-être que les mots sont un peu forts, mais cette forme en trois dimensions, qui est bien sûr une peinture sur un support plat, est assez formidable et il maîtrise, je pense, parfaitement la perspective. Et avec ces jeux d'ombre, on a vraiment l'impression qu'il y a un volume qui sort en fait de cette pièce en bois peinte sur le côté gauche de cette composition picturale. Et ça, c'est vrai que c'est toujours assez formidable, cette maîtrise qu'il a du trompe-l'œil.
Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans l'exposition, cette idée de mélange des plans et de l'espace, de jouer avec ça, parce qu'on voit de la peinture sur des objets qui sont peints, des objets peinture qui se mélangent. Il y a du dessin, voilà. Mais en tout cas, toujours avec cette idée de mélange de plans de deux dimensions, trois dimensions, c'est quelque chose avec lequel tu as beaucoup aimé jouer.
C'est un artiste plasticien qui maîtrise la peinture, mais je pense que son expérience au sein du studio Paranomène lui a aussi permis de maîtriser la construction en bois. Et on a cette pièce à la fois objet et peinture, l'étagère dressing qui est d'un côté un meuble en bois en trois dimensions avec des systèmes de rangement. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 espaces de rangement en étagère, puis un espace dressing où l'on peut accrocher, déposer du textile. Et de l'autre côté, qui est exposé côté vitrine, il a réalisé, découpé cette pièce en bois. Donc on a l'impression d'une peinture sur bois qui du coup va cacher derrière ce que je décrivais avant, c'est-à-dire le côté rangement, dressing et étagère. Tige et feuille s'appelle cette pièce qui fait partie de l'accrochage, donc qui est volumineuse hein, parce qu'elle fait 120 cm de haut par 180 et une profondeur de 35 cm. Donc c'est quand même une pièce située du coup au milieu de la galerie et on laisse la possibilité aux visiteurs de pouvoir tourner autour pour découvrir à la fois une œuvre d'art. Hein. On vient toujours à son principe d'esthétique fonctionnelle. Lorsque là on est devant avec Marine, on regarde une œuvre d'art. Encore un effet trompe-l'œil sur ce mélange donc d'une feuille en volume avec des dégradés, il fait des dégradés aussi très très beaux et très maîtrisés dans les verts et les jaunes. Et lorsqu'on se déplace et qu'on passe de l'autre côté, on trouve ces étagères, hein, cet aspect complètement fonctionnel dans des couleurs orange vif, violet sur la tranche, et puis on retrouve le vert qu'il y avait derrière pour un ensemble colorimétrique que je trouve très très harmonieux. Et donc voilà, on est dans l'esthétique fonctionnelle. Et c'est Emeric qui a réalisé de bout en bout tout l'assemblage, qui a dessiné cette pièce, qu'il a ensuite réalisée, collée, montée et peinte.
Et donc je rebondis sur le titre « Tige et feuille ». C'est pas anodin. Il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'exposition dont t'as pas forcément parlé encore, cette idée du végétal, parce qu'on a l'idée de l'esthétique fonctionnelle qui est une sorte de lien un peu entre toutes les pièces, mais il y a aussi cette idée du végétal qui est aussi présente un peu dans toutes les pièces.
Alors, c'est à la fois parce que les plantes, qu'elles soient arbres, herbes, énormes ou petites, ont des organes comme des feuilles ou la fleur ou même le fruit. Ce sont des organes qui sont assez jolis, qui sont colorés, qui ont des belles textures. Et à la fois, ces organes ont une fonction évidente, comme la photosynthèse pour les feuilles, comme le fruit, c'est une technique de reproduction, puisque le fruit va être mangé par des animaux, puis être disséminé un peu plus loin après défection de ces animaux. Et la fleur, pareil, c'est un organe qui sert à la reproduction de ces plantes. Je ne peux pas m'empêcher de voir que ces organes sont à la fois esthétiques et à la fois fonctionnels. Et donc, je me suis basé là-dessus pour penser des objets qui étaient à la fois esthétiques et fonctionnels. Et je rajouterais aussi que c'est une sorte d'hommage à mes parents qui adorent les plantes. Ma mère s'est souvent occupée du jardin. Mon père, il est professeur en biologie végétale à l'université. Et ce sont tous les deux des amoureux et inconditionnels, on dit ça, des plantes. Et j'ai eu un rapport très conflictuel avec cet amour inconditionnel des plantes parce que les plantes sur la terrasse ou dans la maison m'empêchaient de jouer au ballon. Donc au début, j'aimais pas ça. Et ils ont fini de me convaincre. Donc c'est un peu un hommage à eux aussi.
Ouais, si tu peux me permettre, dans la préparation de l'exposition, les discussions qu'on peut avoir dans la voiture, on parlait du Jardin des Plantes de Nantes et tu me disais à quel point quand vous veniez de Guadeloupe et que vous voyagiez en Europe, tes parents à chaque fois t'emmenaient dans les jardins botaniques de toutes les villes où vous avez voyagé, que ça faisait vraiment comme on va au musée. Vous alliez, j'imagine, aussi au musée, mais vous alliez également systématiquement dans les jardins botaniques. Donc j'imagine combien ça a dû marquer, t'imprégner.
Voilà. Maintenant, j'apprécie les visites au Jardin des Plantes. Bon. Vraiment. Avant, non.
Bah, merci pour toutes ces explications. Oscar, tu veux choisir une pièce ? Ta préférée ?
Oui, c'est difficile de choisir, vraiment. Mais je vais commencer par la première pièce. Comme ça, c'est la pièce que va recevoir les visiteurs. C'est une pièce en graphite. C'est en format A4, un paysage. Et la première vision de l'œuvre, c'est une composition, une nature morte en graphite, avec des ombres hyper bien définies. Et on se demande, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a comme des fausses perspectives, un petit peu. On peut apercevoir que c'est une espèce de typographie qui est réalisée à partir d'une composition d'objets. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et en plus, c'est comme la signature d'Emeric, son blase, qui s'appelle Cor. Et c'est très intéressant parce que c'est un petit peu... C'est des fausses perspectives. Et en même temps, c'est une typographie inventée avec une composition d'objets. Et pour moi, c'est vraiment bien, intéressant.
Une autre ou pas ?
La table.
Donc quand on descend les marches, on arrive et puis il y a une pièce au sol qui s'appelle Contrefort.
Oui, Contrefort. C'est une table d'appoint en bois de peuplier. Et vraiment, c'est une sculpture biomimétique, semble un tronc d'arbre coupé et avec les contraformes des plantes qu'on peut trouver au Caraïbes, qui aident un petit peu à pousser l'arbre. Et aussi, c'est un élément architectural qu'on peut trouver à les cathédrales, les contraforts, pour aider un petit peu les poids et renforcer les structures. La pièce est verticale. Pour moi, c'est curieux parce que c'est comme la superposition avec des multiples panneaux découpés. Et c'est comme si les anneaux qui vont déterminer l'âge de l'arbre sont vraiment à l'extérieur et créent une vibration que c'est vachement intéressant. Et il y a une espèce de pièce métallique qui va créer un petit peu, qui va vertébrer cette sculpture. Il y a une pièce qui est esthétique et fonctionnelle, et très belle.
Cette pièce a été réalisée à l'atelier Millefeuille, qui se situe sur l'île de Nantes, et donc il y a un pôle bois, Emeric a pu la faire réaliser là-bas.
Alors, pour l'exposition, j'ai réalisé une paire de serre-livres qui... voilà, déjà qui est sonore, ben, c'était pas prévu, mais j'aime bien cette idée que l'utilisateur puisse s'amuser à faire des bruits qu'il aime entendre. Avec ce serre-livre qui s'appelle Fleur, vient de l'Astérix en ultra bold d'une typographie. Et donc j'ai extrait la forme de cet Astérix et je me suis mis à jouer avec en le redessinant sur une feuille de papier et en découpant. Et ensuite, avec un jeu de pliage, cet Astérix est devenu une espèce de fleur un peu passée, un peu complètement fanée, qui se recroqueville un petit peu sur elle-même et qui crée un volume qui permettra de caler des bouquins. Donc une fois que j'avais tous les détails, j'ai fait produire l'objet dans une entreprise qui se charge de faire des découpes laser dans de l'acier et du pliage d'acier. Donc ils l'ont réalisé comme je l'avais à peu près imaginé. En ramenant cet objet, je l'ai présenté à deux amis qui tout de suite l'ont pris en main et l'ont retourné dans tous les sens et l'ont redéposé et en disant mais si ça c'est un serre-livre mais il peut aussi fonctionner comme ça. Et donc elles ont en quelques secondes trouvé une configuration de ce serre-livre que j'avais pensé, une nouvelle configuration qui permettait de le faire fonctionner toujours comme un serre-livre alors qu'elle l'avait déposé presque à l'envers en fait. Et donc même à l'envers ça donnait un serre-livre. Et ce serre-livre est percé à deux endroits. Moi je sais que j'ai prévu ces trous-là pour déposer quelque chose qui pourrait ressembler à une fleur séchée, mais ça pourrait être de l'encens. Et j'espère que si des gens utilisent ce serre-livre un jour, qu'ils pourront trouver d'autres utilisations ou d'autres fonctions à cet objet qui au premier abord, je ne sais pas si ça ressemble à un serre-livre.
Non, c'est ça qui est intéressant. Et la fonctionnalité, si vous passez rue Gresset, vous verrez en vitrine, on a fait une sélection de livres avec Emeric et avec Oscar et moi-même. Et donc il y a six gros livres qui tiennent parfaitement bien entre la paire de serre-livres, donc la fonction fonctionne parfaitement.
Très bien, eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Aymeric, Eva et Oscar. L'exposition esthétique fonctionnelle, c'est jusqu'à quand et quand est-ce que c'est ouvert?
Alors, l'exposition est programmée jusqu'au samedi 8 avril. La galerie est ouverte du mardi au samedi en horaire continu de 10h30 à 19h. Si jamais on a des changements d'ouverture pour des rendez-vous exceptionnels qui peuvent nous arriver sur ces horaires, on le mentionne sur notre site internet, donc www.galerie-mira-nantes.com. Là, vous trouverez toutes les informations, les artistes, les fiches artistes, concerts et autres performances que l'on a pu programmer depuis 2015. Et il y a également les liens vers nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, que vous trouverez directement depuis le site internet.
Toutes les informations à suivre et l'actualité aussi, parce que j'imagine qu'il y a une programmation qui va suivre après le 8 avril. C'est quoi la prochaine exposition?
Alors, ça s'appelle Toucher du bois. C'est une exposition collective autour du bois. Un message que l'on a voulu, qui est une idée d'Oscar, que l'on a voulu positif, toucher du bois, ça porte bonheur et c'est important d'avoir des messages comme ça positifs en ce moment, je trouve. C'est une exposition collective avec des artisans, enfin des artistes métiers d'art et des artistes plasticiens qui ont tous une pratique autour du bois.
Très bien, et eh bien j'invite les auditeurs et auditrices à s'informer sur l'actualité de la galerie et puis à venir se déplacer dans l'exposition esthétique fonctionnelle d'Aymeric Rousteau présente jusqu'au 8 avril. Aymeric, si on n'a pas le temps de venir voir l'exposition malheureusement, est-ce qu'il y a des endroits où on peut voir ton travail?
J'espère un petit peu dans la rue. J'ai un site qui est en construction et donc j'espère le terminer aussi vite que possible. Et sinon, sur Instagram. J'ai un Instagram qui s'appelle Esthétique Fonctionnelle et un autre qui s'appelle Aymeric_21.
Donc là, ton actualité en ce moment, c'est cette exposition esthétique fonctionnelle à la galerie Mira. Est-ce qu'il y a d'autres expositions qui sont prévues après?
Oui, après l'exposition à Mira, j'ai eu la chance d'être gentiment invité par l'association Plus de Couleurs pour une exposition qui s'appellera Dialogue, regard croisé entre l'art urbain et l'histoire de l'art, qui se déroulera à l'atelier à partir du 23 mars. Et ensuite, je participerai à une exposition collective à Lille avec mes copains de mon crew de graffiti qui s'appelle Modern Jazz. Et ça débutera en mai, début mai.
Du coup, j'invite les auditeurs et auditrices à venir voir l'exposition, à venir découvrir la galerie Mira, les objets qu'elle contient, et à venir rencontrer Eva et Oscar, et puis à suivre le travail d'Aymeric Rousteau. Merci beaucoup pour votre accueil, merci beaucoup pour vos explications. Je suis ravie d'avoir fait cette émission spéciale printemps, puis en espérant que du coup l'exposition fleurisse comme le printemps qui arrive. Merci beaucoup, au revoir.
Merci Marine.
Merci Marine.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
C'était Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Tchat FM 91.2. On vient de découvrir la galerie Mira et l'exposition esthétique fonctionnelle d'Aymeric Rousteau. Un grand merci à Eva Epognis-Desbordes et Oscar Pignon-Armada pour la présentation de la galerie Mira et des activités et projets qu'ils y mènent. Merci pour leur accueil chaleureux. Et merci beaucoup aussi à l'artiste Aymeric Rousteau qui nous a présenté son travail et l'exposition en cours Esthétique fonctionnelle qui est visible jusqu'au 8 avril. L'exposition est ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 19h et la galerie Mira est située au 1 bis rue Voltaire à Nantes dans le quartier Gralin. J'espère vous avoir donné envie d'aller la voir cette exposition esthétique fonctionnelle. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. Cette émission a été réalisée par Marine Combe. On se retrouve dans un mois pour continuer de regarder avec les oreilles.